10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Anne Hidalgo, bonjour.
Bonjour à vous.
Le virus est le maître du temps. C'est la phrase du président de la République un an exactement après avoir déclaré la guerre à ce virus du Covid-19. Cela peut sonner comme un aveu d'échec de la politique soumise aux mystérieuses volontés de ce virus et de ses variants. Anne Hidalgo, une nouvelle course contre la montre a commencé entre la pandémie et l'élection présidentielle. On le sait, cette campagne se fera sous le haut patronage de la gestion de la crise sanitaire. Pour 2022, vous avez décidé de vous engager pour ne plus être spectatrice parce que, dites-vous, vous ne voulez pas d'un nouvel affrontement entre Le Pen et Macron. En clair, vous souhaitez réunir les conditions pour être candidate. Donc vous allez ce matin nous expliquer comment vous souhaitez réorganiser, diriger le pays. Mais tout d'abord, comment souhaitez-vous et comptez-vous vous imposer? Parce que les sondages à ce stade vous créditent de 6 à 8% donc des intentions de vote. Et surtout, avec quel projet vous voulez rassembler donc les Français, à commencer par la gauche ou les gauches, hein, ce camp politique où on aime tant la division tout en parlant tous les jours d'union et en parlant aussi à une nouvelle génération qui veut faire réécrire des pans entiers de notre histoire nationale ou républicaine. Bref, entre les effets de la crise sanitaire, économique et sociale et démocratique, vous nous direz s'il faut plusieurs doses de courage et s'il faut être vacciné contre le bonheur pour avoir une envie de diriger ce pays. Je salue pour ce grand rendez-vous, pour votre grand rendez-vous, Cécile Cornudet des Échos, Damien Fleurot de CNews qui va ouvrir cette émission.
Bonjour, bonjour Anne Hidalgo. Face à un virus hors de contrôle, notamment sur certaines parties du territoire, ce jeudi, le Premier ministre a donc présenté la nouvelle stratégie sanitaire de l'exécutif. Écoutez-le et on réagit après.
Dans ces 16 départements, de nouvelles mesures de freinage massives de l'épidémie interviendront et pour 4 semaines. C'est une troisième voie que nous retenons, une voie qui doit permettre de freiner sans enfermer.
Anne Hidalgo, est-ce que vous avez compris la stratégie d'Emmanuel Macron qui refuse de parler de confinement ?
D'abord, peut-être revenir sur cette situation qui dure depuis un an, qui est très très dure, qui met notre pays et surtout nos concitoyens à l'épreuve. Une économie à l'arrêt qui a pu redémarrer dans certains secteurs, mais complètement arrêtée pour d'autres. Je pense notamment aux restaurateurs, je pense aux cafés, je pense à beaucoup d'artisans et de commerces qui sont encore fermés. Une démocratie aussi qui est vraiment préemptée complètement, vous l'avez dit, par la question de cette pandémie. Et puis une difficulté à trouver un chemin. Il faut être humble, bien sûr.
Oui, parce que la France n'est pas isolée dans le monde.
La France n'est pas isolée dans le monde. C'est une pandémie, donc c'est dans le monde entier. Il faut être humble parce qu'évidemment, ce virus, il joue des tours, il mute. Mais aussi, il faut interroger la façon dont on conduit depuis maintenant
mais
un an.
Sévère aussi, parce que vous savez l'être quand vous parlez de la politique du gouvernement.
Bien sûr, quand je dis il faut savoir aussi interroger le processus. Avant de revenir sur les dernières décisions, je pense que on devrait savoir qu'une épidémie, ça ne se gère pas comme on gérerait une crise liée au terrorisme ou une guerre. Une épidémie, ça se gère au contraire en donnant beaucoup d'informations. Je pense que le choix du Conseil de défense, la méthode qui a été retenue par le président de la République, de ce point de vue, n'est pas la bonne. Il faut que l'on partage beaucoup l'information et peut-être que ce qui a manqué, c'est l'explication sur ce qui a fondé, par exemple, pourquoi fin janvier, début février, la décision, alors que beaucoup de pays européens à ce moment-là décident de reconfinement, la décision à ce moment-là en France n'est pas celle-là.
Fallait le faire.
Je n'en sais rien, mais en tous les cas, il fallait qu'on ait les éléments qui devaient être entre les mains du président de la République, qui décide à ce moment-là de faire un pari. Ça a été présenté comme ça. Et aujourd'hui, est-ce qu'il fallait opter pour ce type de confinement, ce troisième confinement ? Pour ma part, je pense que dire qu'il faut tirer les enseignements d'un virus qui se propage plus à l'intérieur qu'à l'extérieur et qu'il vaut mieux être dehors qu'enfermé, C'est plutôt une bonne chose. En tous les cas, je l'avais aussi suggéré. J'ai fait une tribune dans Le Monde il y a quelques temps qui allait plutôt dans ce sens-là. Mais je pense surtout que c'est la question de la vaccination sur laquelle il faut
absolument, aujourd'hui, être plus efficace,
plus performant. C'est ça qui peut nous sauver.
On va le faire. On reste quelques instants encore quand même pour bien comprendre ce qui s'est passé ces derniers temps, parce que vous faites aussi allusion au processus de décision, mais vous avez aussi des déclarations à 3 semaines. Il faut aussi continuer à les clarifier, Cécile Cornudet.
Oui, il y a 3 semaines, et notamment vous parliez de votre tribune dans Le Monde. Vous disiez qu'il faut une stratégie zéro Covid sans confinement. On n'avait pas très bien compris ce que c'était. Est-ce que c'est ça aujourd'hui, ce que met en place Emmanuel Macron avec son confinement dehors, aéré ? C'est une stratégie zéro Covid ?
Alors, peut-être, et tant mieux s'il m'a écouté, au moins ça aura été utile. Oui, c'est vrai que la stratégie zéro Covid, par définition, telle que les scientifiques la définissent, c'est avec un confinement et avec un confinement sévère. Je pense que ce chemin qui consiste à dire on tire les enseignements, il y a un an, on n'avait pas les masques. D'ailleurs, ça a été un vrai feuilleton, hein, la question des masques. On n'avait pas les tests. Là aussi, c'était un feuilleton. Il n'y avait pas la vaccination. Et on ne savait pas encore qu'il fallait être plutôt dehors, aérer beaucoup.
Mais ça peut marcher, vous pensez, quand on voit les chiffres en Île-de-France ?
Je ne suis pas médecin, je ne suis pas professeur. Il faut aussi tenir compte de ce que nous disent les professeurs. Par exemple, Rémi Salomon, qui est le président de la commission médicale de la PHP, les hôpitaux de Paris, dit depuis longtemps qu'il faut plutôt essayer d'aérer, de ventiler et d'être dehors. Cette piste-là me paraît une bonne piste. Je pense qu'on sait aussi que dans cette épidémie, il y a eu un effet sur la santé mentale des Français. Mmh. On sait aussi que si on arrête complètement l'activité physique, si on ne sort plus, si on ne se promène plus...
Mais des scientifiques, là, vous parlez de scientifiques.
Je termine juste ma phrase. Si on n'a pas une activité physique, on est aussi moins résistant aux différentes maladies. Donc je pense que... Et puis, par ailleurs... Dans la stratégie qui consiste à dire aussi à nos concitoyens, vous pouvez sortir, mais attention, quand vous êtes à l'intérieur, ne faites pas de regroupements, même familiaux ou amicaux, à l'intérieur, parce que c'est là qu'il y aura des contaminations. On mise sur la responsabilisation et non pas l'infantilisation.
Je pense qu'on
a beaucoup infantilisé depuis le début de cette épidémie.
Pour vraiment clarifier, on va continuer aussi avec Cécile. Vous avez posé l'humilité comme mode de fonctionnement. Vous avez dit, au fond, finalement... Zéro Covid sans confinement, ce n'était pas la bonne méthode. Il faut aussi confiner.
En tous les cas, c'était sans doute la méthode au moment où on ne savait pas où, il y a un an, ce virus nous tombe dessus et un certain nombre de pays ont opté pour cela. D'autres non, d'ailleurs. Hein, d'autres pays qui étaient, je pense, à la Corée du Sud, qui avait déjà connu d'autres pandémies, enfin épidémies, notamment le SRAS, avait déjà développé tout un dispositif pour permettre l'isolement des personnes malades, mais aussi les masques, les gestes barrières. Donc, c'est vrai qu'il y a un an, il y a des choses qu'on ne savait pas par rapport à aujourd'hui. Et aujourd'hui, je pense que c'est très important. Moi, je suis évidemment très sensible aussi à ce qui s'est passé à Paris. À Paris, vous avez beaucoup, beaucoup de personnes qui vivent dans des petits appartements, qui sont nombreux dans des petits appartements. Et on sait, quand on fait une cartographie très, très fine, là aussi, le professeur Pierre Roux, qui est un grand infectiologue, quand il est arrivé au début de l'épidémie, il nous a dit une épidémie, ça se gère avec une carte qu'on déploie sur le territoire et un quadrillage du territoire. Je regrette qu'on ne soit pas allé très loin dans le quadrillage du territoire et qu'il y ait eu beaucoup trop de mesures décidées d'en haut, générales.
Ça a changé, ça, pour le coup.
Ça a été difficile.
Une chose qu'on sait aujourd'hui, c'est que quand même, ça circule beaucoup dans les écoles. Oui. Certains scientifiques disent si ce n'est pas suffisant, dans 15 jours, il faudra aller plus loin, voire fermer les écoles. Est-ce que vous suivrez toujours si on va jusque-là?
Je suivrai évidemment les recommandations qui s'imposeront à nous, mais je pense qu'il va falloir... il va falloir d'abord surveiller ce qui se passe dans les écoles et beaucoup dans les collèges et les lycées. Dans les lycées, il y a une proposition de demi-jauge, demi-classe. Je pense que c'est une bonne chose. Pour les écoles, nous avons proposé à Paris, dès le mois de septembre, que l'éducation nationale puisse bénéficier de lieux qui sont inoccupés aujourd'hui. Je pense à des théâtres, à des grands musées dans lesquels on pourrait finalement étendre les locaux. Il ne s'est rien passé. Et puis, j'ai proposé aussi que l'on puisse envisager la classe dehors. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'instituteurs qui le font déjà. Cette semaine, dans le 19e arrondissement, j'ai vu un instituteur sur des petites classes de maternelle qui fait la classe dehors.
Est-ce qu'il faudrait vacciner le personnel
Alors, il y a deux choses. Je pense qu'il va falloir suivre de très près à partir des tests, et notamment les tests salivaires. Là aussi, on s'est engagé avec le rectorat de Paris, donc le ministère de l'Éducation nationale, et avec nos équipes de la ville, à pouvoir faire des tests salivaires dans un certain nombre d'écoles, et surtout à déclencher des opérations de tests salivaires chaque fois qu'il y aura un cluster.
On en parle depuis 3 mois et il n'y en a pas tant que ça.
Alors, il n'y en a pas tant que ça. Et cette semaine, mais on a revu les choses avec l'Éducation nationale, il y a eu un petit loupé, parce qu'une école du 20e où il y avait un cluster... on me disait qu'il fallait que j'attende le 30 mars pour faire les tests salivaires dans cette école.
On demande aux enseignants de verser 1 euro pour ces tests.
Ça n'est pas normal, mais ça, c'est à prendre en charge par le service public et le ministère. Mais surtout, donc, les tests qu'il va falloir, sur lesquels il va falloir être extrêmement réactif, et il va falloir en faire beaucoup chaque fois qu'il y aura des cas et des clusters, et puis la vaccination. La vaccination de tous ceux qui travaillent en lien avec les enfants.
Mais prioritairement.
Mais vraiment prioritairement. Au-delà de ça, d'ailleurs, on y reviendra. Il faut vraiment débrider la vaccination maintenant à tous ceux qui veulent se faire vacciner, mais on y reviendra.
Vous plaidez pour la réouverture des cafés, des restaurants. Paris, c'est une ville qui accueille beaucoup de tourisme en temps normal. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour faire revenir ces étrangers ?
Aujourd'hui, c'est très difficile et on le voit, la ville n'est plus la même. Une ville sans ses cafés, sans ses restaurants, même si la ville est très belle, ça reste quand même quelque chose de totalement atypique et de très douloureux. Douloureux parce qu'il y a des gens qui souffrent et qui perdent leur boulot et qui ne savent pas d'ailleurs comment ils vont pouvoir réouvrir, même s'il y a des aides de l'État ou de la ville pour essayer d'accompagner ce moment très difficile. Comment on fait ? On va avoir en 2024 l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Ça sera, disons-le, le premier grand événement international qui pourra nous, post-Covid,
avec
je l'espère...
votre pari, c'est que la République.
Oui, j'espère qu'en 2024, contrairement à malheureusement ce qui peut se passer à Tokyo, on pourra faire venir aussi un public international. D'ici là, heureusement qu'on a les Jeux Olympiques et Paralympiques en préparation, parce que ça reste un moteur très très puissant, à la fois pour notre économie et aussi de message à l'international sur Paris et sa volonté d'accueillir le monde.
Alors à propos message, on va se retrouver dans quelques instants avec Anne Hidalgo.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et l'on retrouve notre invitée Anne Hidalgo. Les Français semblent lassés, selon les sondages, par toutes ces restrictions. Un Français sur deux se dit prêt à s'autoriser des écarts. Est-ce que vous le comprenez ou est-ce que vous leur dites qu'il faut encore continuer ?
Être lassé, je crois que c'est... Évidemment, on n'en peut plus, tous autant qu'on est. On a l'impression que nos vies sont prisonnières. Il n'y a pas d'horizon qui se dégage. Et en même temps, il faut tout faire pour essayer de dégager cet horizon et pouvoir retrouver le chemin d'une vie qui est celle qui permet qu'on se rencontre, qu'on s'embrasse, qu'on puisse débattre, s'engueuler aussi. Enfin bref, qu'on puisse vivre une vie de Françaises et de Français telle qu'on l'aime. Je comprends bien sûr cette lassitude et je peux la partager. Mais il faut se mobiliser encore.
Le président de la République a sans arrêt voulu repousser les limites du confinement. Il a essayé au moins. Vous le comprenez ou vous dites que c'était une mauvaise stratégie ?
Je n'ai pas les éléments qu'il avait alors et je regrette que ces éléments-là n'aient pas été mis sur la table, qu'ils n'aient pas été partagés, débattus. Je pense que ce n'est pas bon qu'un homme seul décide seul de choses aussi importantes qui impactent toutes nos vies. Je pense qu'il faut partager l'information, qu'il faut partager aussi la décision.
Ministres,
et vous en savez quelque chose, vous, des avis du conseil scientifique? Ils sont même plus publiés ou longtemps après, on ne sait pas. Je pense qu'il y a un problème de méthode, hein, et je l'ai souvent dit. Ce n'est pas dans un conseil de
Cette fois, il a consulté des maires d'Île-de-France en visio, et c'est ça qui l'a fait
changer. C'était les décisions ont commencé à être annoncées, je crois, mercredi ou jeudi dernier. J'ai eu un premier appel, après tout le monde, sans doute, à 18h15 du préfet de police, me disant que lui-même n'en savait pas plus que moi.
Jeudi soir,
et à 21h, de Jean Castex, que je remercie de m'avoir appelé pour me dire quel était l'état de leur réflexion. Mais j'ai entendu, y compris la présidente du conseil régional d'Île-de-France, dire la même chose que moi. C'est quand même pas tout à fait normal que ni elle ni moi, pendant toute la journée, nous soyons dans l'attente de ce qui va se dire, sans savoir ce qui va se dire. Paris, c'est une ville de 2 200 000 habitants. Évidemment que s'il y a des décisions importantes, il faut que je sois en capacité, avec mes équipes, avec mes services, avec mes adjoints, avec les maires d'arrondissement.
C'est une méthode générale ou c'est dirigé contre vous ?
C'est une méthode, j'en sais rien.
Puisque la rivalité 2022.
Je pense que c'est plutôt une méthode générale, mais je le redis, un conseil de défense, c'est quelque chose qui, évidemment, est utile quand on est en train de lutter, par exemple, une crise terroriste. Ça nous est arrivé, j'ai vécu ça aussi à Paris en 2015. Et d'ailleurs, il y avait un partage d'informations beaucoup plus étroit avec les autorités nationales, alors qu'on était sur des sujets. Quand vous faites une enquête sur les terroristes, il vaut mieux pas mettre sur la place publique les endroits où vous allez les chercher. Et ça, je peux comprendre. Mais un virus, une pandémie... Vous savez, moi, j'ai appris quelque chose, notamment dans la lutte contre le sida à Paris, où la pandémie est encore très, très virulente. J'ai appris que si on ne passe pas par les acteurs, les citoyens, les personnes, pour en faire eux-mêmes des acteurs contre leur maladie, eh bien, on n'y arrive pas. Il faut aller vers, il faut non pas infantiliser, mais responsabiliser. Il faut accompagner, il faut que l'information circule très très largement, qu'elle soit partagée et que les autorités nationales, locales, scientifiques, médicales et les citoyens soient partie prenante de la lutte contre le virus. Et je pense que c'est ça qui nous manque, et c'est peut-être ça qui pourrait faire qu'on voit le bout du tunnel un peu plus vite.
Le bout du tunnel, c'est le vaccin. Jean Castex s'est fait vacciner par AstraZeneca vendredi. Est-ce que c'est important de montrer l'exemple? Et est-ce que vous allez vous faire vacciner?
D'abord, c'est très important de montrer l'exemple, surtout quand même après les confusions qu'il y a eu sur l'AstraZeneca.
Il ne fallait pas lever la vaccination.
Écoutez, en tous les cas, il fallait bien sûr qu'il y ait une vérification de la fiabilité du vaccin. Mais voilà, après, je pense que c'est derrière, il va falloir qu'on rame un peu.
Vous allez donner l'exemple.
Moi, dès qu'on me dira que je peux me faire vacciner, dès que ça sera mon tour, je donnerai l'exemple. Et si on me dit il y a une opération pour montrer qu'il faut donner l'exemple, je le ferai évidemment volontiers. Je pense que c'est le vaccin qui va nous permettre évidemment de pouvoir retrouver une vie un tant soit peu normale.
Olivier Véran, dans Le Parisien ce matin, annonce 100 000 doses supplémentaires pour l'Île-de-France parce que c'est une zone en tension. C'est une bonne chose.
Écoutez, moi, j'ai demandé depuis déjà quelques semaines qu'on multiplie par 4 les doses. Grosso modo, depuis début janvier, sur Paris, on a environ 10 à 12 000 doses par semaine, ce qui est très, très peu. On a à peu près 10% de la population parisienne qui est aujourd'hui vaccinée, ce qui est très, très peu. Donc, je pense qu'il faut un coup d'accélérateur.
Il faut mettre
les labos quand même aussi sous pression, fabriquer aussi des doses en France, transformer des chaînes de production.
C'est pas ce qui est fait déjà.
Alors, j'ai entendu dire que c'était, en tous les cas, qu'il y avait des grands labos, Sanofi et d'autres, d'accord pour le faire. Peut-être aussi, vous savez, il y a un mouvement mondial qui s'est organisé sur le thème « Pas de profit sur la pandémie ». qui vise notamment à ce que, puisque les labos, ça y est, ils ont, je crois, amorti leur recherche et qu'il y a eu beaucoup d'argent public dans la recherche aussi sur les vaccins, que maintenant, on soit avec des brevets publics qui permettent de développer...
AstraZeneca est très peu cher, mais
qu'on puisse développer plus largement et de façon beaucoup plus ouverte sur toutes les chaînes de production disponibles.
Et la vaccination, comment vous la faites monter en masse
et donc, s'assurer de cette plus grande disponibilité des vaccins et de fabrication des vaccins, parce que là, il faut qu'on sorte de cette période. Mais est-ce qu'il va falloir tous les ans revenir à des vaccinations? Est-ce que ce sont des questions, j'ai aucune réponse là-dessus, mais sur lesquelles il va bientôt, bien sûr, falloir se pencher. Et donc, pour rendre la vaccination plus efficace, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à un moment, on nous dit que les doses vont arriver, AstraZeneca notamment. Par exemple, sur Paris, on nous dit qu'on pourra miser sur environ 50 000 doses par semaine. Donc, je propose qu'on débride la vaccination, que toutes celles et ceux qui veulent se faire vacciner puissent le faire. J'ai vu que Stéphane Troussel... J'ai vu que Stéphane Troussel, le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, proposait un grand vaccinodrome, notamment au Stade de France, et en disant que d'ailleurs la population de la Seine-Saint-Denis est très jeune.
Est-ce que vous réquisitionnez les stades parisiens, Anne Hidalgo ?
Je suis prête vraiment à organiser. On a 24 centres de vaccination aujourd'hui sur Paris.
Mais quand est-ce qu'ils seront ouverts, ces centres 7 sur 7, 24 heures sur 24 ?
Moi, je souhaite qu'ils puissent l'être le plus vite possible. On a montré tous les maires de France... ont montré leur capacité. On nous avait prévenu, par exemple, un vendredi soir, que le samedi suivant, nous devrions faire des vaccinations en masse à un moment où il y a eu du déstockage de Pfizer. On l'a fait partout en France, on l'a fait à Paris. Donc, on est prêt, on est capable de le faire.
Mais ce que vous dites, c'est qu'il faut vacciner maintenant tout le monde. Ça y est, on arrête les critères.
Il faut vacciner tout le monde.
Toute personne prioritaire.
Alors, il faut bien sûr tenir compte des antécédents médicaux de toutes celles et ceux qui vont se faire vacciner et être précautionneux par rapport aux règles sanitaires. Mais je pense qu'il faut y aller maintenant. Par exemple, les enseignants, tous ceux qui travaillent avec les enfants, les policiers à la fois municipaux et nationaux, qui sont quand même sur la voie publique, sur l'espace public.
Mais il n'y a pas de dose. Donc ça va créer une foire d'empoigne de tous les gens. Aujourd'hui, le problème, c'est que les gens n'arrivent pas à se faire vacciner alors qu'ils le voudraient.
Je suis d'accord avec vous que c'est ce qu'on a vécu et que j'ai vécu à Paris avec des centres qui étaient prêts, mais sans dose.
C'est l'Europe qui a failli, vous pensez?
On nous dit maintenant que les doses sont là. Donc, je n'ai pas de raison de mettre en doute cette parole officielle et nationale. Donc, je dis, ne nous faisons pas prendre de cours et organisons dès maintenant des centres de vaccination qui puissent accueillir très massivement tous les Français.
30 millions de Français vaccinés à l'été, c'est un objectif réalisable ?
Je n'en sais rien. Si on est sur le même rythme que depuis janvier, ça paraît peu réalisable.
La route sera encore longue pour
si
vous.
Si il y a une accélération et si on passe à un autre stade, c'est-à-dire vraiment à un élargissement de la vaccination à celles et ceux qui veulent se faire vacciner, je reprends l'argument de Stéphane Troussel. La Seine-Saint-Denis, c'est un des départements les plus jeunes de France. Voilà. Et on dit, on attend parce que d'abord, on en est encore aux plus de 75 ans. Bien sûr qu'il faut vacciner les plus de 75 ans et qu'ils doivent être prioritaires dans les files d'attente pour se faire vacciner. Mais il faut ouvrir à tous les autres. Parce que tous ceux, par exemple, Seine-Saint-Denis ou dans nos quartiers populaires à Paris, c'est quoi ? Ce sont les premières lignes, ceux qui travaillent dans les supermarchés, ceux qui travaillent dans nos services publics, nos agents qui font le nettoyage des rues, les policiers. Ce sont ces premières lignes-là qui sont plus jeunes, qui sont actifs et qui sont quand même qui doivent pouvoir aussi bénéficier du vaccin pour eux et puis pour nous permettre collectivement de passer cette étape qui est quand même une étape cruciale.
Voilà, c'était donc l'appel d'Anne Hidalgo pour ouvrir la vaccination à tout le monde. Cette semaine, vous avez lancé un autre appel. On se retrouve pour en parler.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a une attestation spéciale pour aller voir les Français, tout simplement, pour préparer son projet. Vous étiez à Douai, donc avant le troisième confinement, cette semaine, pour lancer un appel et une plateforme. On écoute, on regarde.
Je suis très heureuse d'être ici et le choix de Douai pour aussi lancer aujourd'hui cette plateforme qui s'appelle Idées en commun. Ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas le lancement d'une campagne électorale, c'est un moment dans un pays qui a besoin que l'on répare beaucoup de ces fractures.
Alors on a envie de traduire, c'est un lancement d'un parti politique, c'est le lancement d'une campagne électorale. Vous avez choisi Douai, une ville socialiste, une horde mineure, pour inscrire un peu vos premiers pas de cette marche que vous démarrez. Pourquoi maintenant, alors que les Français sont occupés par la crise sanitaire et qu'ils n'ont pas la tête à la présidentielle ?
Non, bien sûr, je crois qu'ils n'ont pas la tête à la présidentielle. Et on l'a dit tout à l'heure, notre pays est d'abord sous le coup de cette pandémie.
Mais vous dites, c'est le moment quand même de poser un projet.
Je pense que la démocratie doit vivre, la démocratie doit respirer. Et c'est important, en tous les cas pour moi, de vouloir rassembler. Je l'ai dit, je ne m'étais pas projetée dans ce rôle-là. Mais le fait de voir quand même toutes ces fractures, tout ce qu'il y a à réparer comme relation entre les Français, tout ce travail qui doit être là pour retrouver le goût d'être ensemble, de se projeter ensemble, ce travail-là doit être fait. Ce qui m'a aussi poussé à endosser, ce rôle pour rassembler, pour créer les conditions d'un dialogue, d'un travail de fond avec les Français, c'est aussi cette division qui existe, notamment à gauche, avec les écologistes, et de voir qu'il y a quand même une forme de désespérance de beaucoup de Français qui se disent, c'est quoi notre horizon ? Est-ce que l'élection présidentielle de 2022 est déjà jouée ? Est-ce qu'on n'a pas notre mot à dire ? Et donc, j'ai souhaité aussi, porté par beaucoup de mes collègues maires, créer cette initiative sur toute la France, tous les territoires, à partir des maires. Les maires, c'est une sorte d'équipe de France, de gens qui font, ils sont dans le faire.
Et c'est un message à vos partenaires écologistes et insoumis, supposés, pour dire nous avons quand même un réseau puissant.
C'est un message pour dire qu'on ne s'en sortira pas par les divisions. Et qu'aujourd'hui, évidemment que la France a beaucoup changé. Depuis 2017, il y a eu un tsunami politique, il y a eu un émiettement, une fragmentation d'un certain nombre de partis politiques. Il y a aussi un déplacement qui s'est fait de l'engagement des Français. Beaucoup de Français qui avant s'engageaient dans les partis politiques s'engagent aujourd'hui dans la vie citoyenne. Et nous, les maires, les élus locaux, c'est ce qu'on voit tous les jours. D'ailleurs, on a déjà opéré ces dépassements sur nos territoires avec ces citoyens engagés et avec, d'ailleurs, toutes les formations politiques
existantes. Pour bien comprendre, parce que beaucoup de gens écoutent, ne sont pas tous les jours, comme on le sait, dans ces coulisses de la campagne présidentielle. Vous posez maintenant, vous assumez poser les fondations d'une candidature pour 2022.
Je pose les fondements d'un mouvement qui veut rassembler et faire des propositions aux Français, avec les Français. Et vous savez, je tire ça de mon expérience aussi. Je suis maire depuis 2014. J'ai une équipe qui est à la fois composée de personnalités qui viennent de la société civile, mais aussi tous les partis politiques. D'ailleurs, mes adjoints, qu'ils soient verts, communistes, socialistes ou société civile, font un boulot extraordinaire. Quand on est dans le concret, dans des projets, on dépasse les difficultés et les clivages. Et je veux donner ça aussi à voir, parce que ça n'existe pas simplement à Paris, mais partout en France.
Vous parlez de difficultés, il y en a une avec vos alliés, les verts, les écologistes. Ils ont tracé une route vers la présidentielle de 2022. Ils disent, on aura un candidat, quoi qu'il arrive, quoi qu'il coûte. C'est notre tour. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin ?
D'abord, je pense que l'élection présidentielle, ce n'est pas le tour d'un parti ou le tour de quelqu'un. C'est un sujet de destin national, de destin des Français. C'est quelque chose qui doit être beaucoup plus collectif que ça. Et je pense que compte tenu des crises majeures qu'on traverse, la crise climatique, ça fait quasiment 10 ans qu'on nous dit « il reste 10 ans pour agir ». On est au bout, là. Donc si on ne se met pas ensemble pour agir et faire en sorte qu'on transforme notre économie, qu'on aille vers une autre forme d'industrialisation non carbonée, qu'on permette d'avoir des emplois, que les gens puissent travailler sur tous les territoires. Ce que j'ai vu à Douai était extrêmement intéressant de ce point de vue-là. Mais il y a d'autres crises. il y a aussi une crise démocratique, il y a une crise de la confiance. Vous savez, je pense que beaucoup de... D'abord, il faut rassembler plutôt que de se diviser en se disant c'est ton tour, c'est pas mon tour. Voilà, on n'est pas en train de prendre un ticket pour savoir lequel va passer
vous avez aujourd'hui le premier.
Fabien
Roussel du Parti communiste, je serai candidat.
Mais
tout le monde est candidat.
Qu'il y ait une affirmation d'identité distincte au sein de la gauche, des humanistes, des écologistes, c'est le jeu démocratique et tant mieux. Mais qu'on ait conscience qu'à un moment donné, ces jeux-là doivent conduire au rassemblement. Et ce qu'on arrive très bien à faire partout sur nos territoires, tous les maires avec qui je discute, le maire de Douai, mais vous prenez la maire de Rennes, Nathalie Appéré, vous prenez Johanna Roland, vous prenez Michaël Delafosse qui est à Montpellier, qui sont, oui, des élus socialistes, mais qui ont des coalitions déjà très très larges, dans lesquelles il y a toutes les formations politiques de la gauche, plus des citoyens engagés. Ça marche sur nos territoires. Alors, ce qui marche sur nos territoires ne pourrait pas marcher au niveau national.
Comment vous avez, on a entendu, vous n'êtes pas toute seule et tout ça, c'est ce que vous voulez démontrer. Mais Cécile Cornudet.
Oui, vous parlez d'identité. Et qui dit identité dit idée. On a été voir votre site Idées en commun. Il y a des espaces pour que les citoyens déposent des contributions, mais vous, vos contributions, vos idées, on ne les voit pas. Est-ce que vous nous donneriez une idée structurante de votre projet pour 2022 ?
D'abord, vous allez les voir, bien sûr, et je veux les partager, ces idées. Elles ne vont pas sortir...
Oui, mais une qui fait la différence avec les autres.
Alors, parce que c'est vous qui donnez l'impulsion, quand même.
D'abord, les idées, les fondements sur lesquels il va falloir bâtir un projet pour la France. C'est d'abord, bien sûr, la transition écologique. La transition écologique, il ne faut pas simplement la voir comme une rupture, passer d'un monde carboné à un monde décarboné. La façon d'aborder cette question, par exemple, de l'écologie, pour nous, ça va être le comment. Comment on y va ? Moi, je dis souvent, vous savez, je suis au départ une social-démocrate, totalement écologiste. Je crois que j'ai donné l'épreuve à Paris. Et ce qui m'anime, c'est toujours de savoir comment on fait le pont pour passer d'une idée, par exemple changer l'économie pour qu'elle soit moins carbonée et aller vers un monde qui serait un monde dans lequel il y a quand même de l'emploi et cette économie nouvelle qui existe. Eh bien, c'est construire le pont. Voilà, c'est comment. Le comment est très important dans ce qui va animer les femmes et les hommes qui travaillent dans cette équipe de France des maires, des territoires et avec beaucoup, beaucoup aussi d'intellectuels, de chercheurs qui nous accompagnent. Un autre sujet très important. Notre pays est fracturé. Il y a un problème vraiment de confiance, de lien entre les Français qui est cassé. C'est lié en grande partie aussi aux inégalités qui sont violentes. Je l'ai vu quand je vais à Douai, que je rencontre des ouvriers, ouvrières qui sont en train de revenir dans la vie professionnelle et qu'ils m'expliquent à la fois la passion pour ce travail, le fait que ce travail, c'est plus que du pouvoir d'achat, c'est plus qu'un salaire, c'est quand même aussi une façon de dire à leurs enfants qu'ils ont cette place dans la société et qu'ils sont là aussi pour les guider, eux, dans leur propre vie. Ce sont des choses très importantes. Il faut réparer. Vous savez, il y a un mot, il y a une philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Madame Pelluchon et qui travaille beaucoup sur les questions justement d'écologie à l'aune de l'universalisme. Et elle dit souvent ce mot « considération ». Il faut considérer les Français. Vous savez d'où vient ce mot ? Michaël Darmon. Ce mot vient, et c'est Corinne Pelluchon, ce mot vient de « avec les étoiles ». Considérer, ça veut dire regarder l'autre avec autant d'importance que les étoiles qui nous guident. Il faut qu'on se reconsidère les uns les autres et travailler, lutter contre les inégalités avec cette considération. Et puis un troisième point, pardon, puisque vous m'avez demandé trois sujets, c'est la démocratie et la République. Les valeurs républicaines comme horizon, comme colonne vertébrale, et la démocratie qui doit être continue et qui doit pouvoir fonctionner beaucoup mieux qu'elle ne fonctionne aujourd'hui.
On se retrouve justement pour en parler. Après les étoiles, on va atterrir sur des considérations plus prosaïques, les sondages et justement vos idées. À tout de suite.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Damien Fleurot, Michaël Darmon.
Et Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui aujourd'hui donc, nous annonce qu'elle pose les fondations d'un projet pour rassemblés. La France, on a regardé aussi, vous êtes un peu à la peine dans les sondages, chez les jeunes notamment. 6% de, chez les moins de 35 ans, c'est pas encore très, évidemment, très important. Qu'est-ce que vous dites à cette génération à gauche, celle des lanceurs d'alerte, qui luttent contre toutes les formes de discrimination ethnique et qui, au nom de l'antiracisme, parfois jusqu'à même susciter du séparatisme, mais qu'est-ce que vous dites à cette génération, on appelle la woke génération, très éveillée?
D'abord, il y a une génération qui est une génération de jeunes engagés qui nous ont alertés sur notamment le défi climatique, qui nous ont dit il n'y a plus le temps d'attendre. Une génération qui, dans un monde très complexe, a sans doute aussi d'autres repères qu'elle veut inscrire. Toute cette génération, moi, je la vois comme courageuse. Hein. Vous savez, les étudiants aujourd'hui qui essayent quand même de s'en sortir, les jeunes qui vont se retrouver, enfin, qui se retrouvent dans Parcoursup et qui vont se retrouver sur des choix qui n'étaient pas les leurs. Je veux dire à cette génération que leur vie est difficile et que les adultes que nous sommes, non seulement nous devons les entendre, les écouter, les accompagner. C'est ce que je fais, par exemple, à Paris, en créant aussi des lieux, une académie du climat qui va pouvoir accueillir ces jeunes, en remettant aussi en question les pédagogies, c'est-à-dire comment on leur transmet nos héritages, nos valeurs. Et ça, l'éducation devra aussi faire ce travail sur la transmission. Mais vous me posez une autre question.
Bien entendu.
Vous me posez une question qui est celle d'un certain nombre de positions, de mouvements, type la cancel culture, type...
Type l'UNEF qui organise des réunions séparées pour parler des discriminations.
Bien sûr.
Où les hommes et les femmes n'ont pas le droit d'être ensemble.
Ce que je dis, c'est que c'est très dangereux. C'est très dangereux. Je crois que notre rôle, mon rôle, en tous les cas, mes convictions, sont des convictions républicaines. Il faut qu'on arrive à mieux faire partager, et je pense qu'il faut quand même vous interroger pourquoi ça n'a pas été le cas, mais mieux faire partager en quoi les valeurs républicaines, en quoi la laïcité est un trésor qui est celui qui nous permet de vivre ensemble, quelles que soient justement nos convictions, qu'elles soient intimes, religieuses ou politiques. Il faut que l'on revienne sur ce que ces valeurs de la République nous permettent vraiment de vivre ensemble de façon pacifié, alors que toutes les tentatives qui sont d'ailleurs derrière un certain nombre de ces philosophies visent au contraire à marquer les identités différentes, à les différencier, à être dans le différentialisme et à ne plus permettre le dialogue entre des femmes et des hommes différents. Je le dis souvent, vous savez, je suis née en Espagne. J'ai finalement adhéré à la nationalité française quand j'avais 14 ans. Par un décret de naturalisation familiale. C'est un choix. Et pour moi, dans un pays qui, à l'époque, était très encore hein, sous couvert d'une religion très puissante, je sais que je n'aurais pas eu du tout le même avenir si mes parents avaient fait le choix de rester en Espagne que l'avenir que j'ai eu grâce à la République et aux valeurs républicaines et à l'école républicaine que j'ai pu trouver ici en France. Et ce que permettent ces valeurs de la République, c'est de vivre ensemble dans ces différences-là. Donc il faut les affirmer.
Mais ça, c'est cette génération-là, ne veut plus l'entendre.
Alors,
Hidalgo, regardez
faut,
par exemple
si,
l'histoire aujourd'hui qui est au cœur souvent de nos débats politiques. Et sans arrêt revisité, contesté dans ces récits. Par exemple, cette année, le bicentenaire de Napoléon suscite également des polémiques parce qu'on considère qu'on ne met pas en avant ou on met trop en avant ses exploits et pas assez ce qu'il a
d'abord
mal fait vis-à-vis notamment donc des codes négriers, des traits des Noirs et tous ces sujets. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Écouter,
d'abord,
maintenir ?
D'abord, il faut que l'université soit le lieu de l'universalisme et que toutes les études, toutes les enquêtes, y compris sur le colonialisme évidemment, puissent se faire et qu'ils puissent être le lieu du débat, de la science, de la contradiction et de l'esprit
c'est
critique.
C'est dur à les faire jeunes, passer aux jeunes générations.
Non, c'est pas dur si on s'y met tous, je pense, et si on réaffirme les choses de façon posée. Je pense que ce qui aujourd'hui est posé comme un problème par beaucoup de jeunes, c'est que la promesse républicaine, par exemple, d'égalité, n'est pas réelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez des discriminations contre les jeunes gays, contre les lesbiennes, contre les personnes en fonction de leur origine sociale ou de leur couleur de peau. Il y a beaucoup de discriminations. Il y a un sujet qui doit être sanctuarisé, la question de l'antisémitisme. Hein. Cette question-là, elle doit vraiment nous rassembler parce que l'antisémitisme, c'est quand même le témoin de la santé démocratique d'un pays. Hein. Et donc, il faut qu'on engage cette discussion, que l'on explique. Par exemple, lorsque je dis que je suis républicaine et attachée aux valeurs républicaines, ça ne veut pas dire que je considère qu'il n'y a rien à changer. Il ne faut pas être simplement dans l'incantation des valeurs républicaines. Il faut être très concrètement dans des politiques sociales qui luttent contre ces inégalités, qui reconnaissent des droits à tous les enfants de la République, quelle que soit l'origine, leur orientation sexuelle et évidemment, quelle que soit leur religion. Alors l'histoire là-dedans, pendant très longtemps, je crois qu'on a plutôt eu une histoire qui a omis un certain nombre de choses. Donc il faut la compléter. Moi, dans une ville comme Paris, où bien sûr l'histoire est à chaque coin de rue. Si on a très très peu débaptisé noms de rue à Paris.
Rebaptiser ou baptiser de nouvelles rues, vous avez des exemples par exemple?
D'abord oui, par exemple on a débaptisé il y a très longtemps, hein, en 2001, la rue Richepense qui était un esclavagiste et dans le 14e arrondissement et on l'a baptisé rue Chevalier de Saint-Georges. Par exemple, j'ai baptisé un jardin dans le 17e arrondissement, jardin Solitude. Solitude était une femme mulâtre qui, en Guadeloupe, s'est battue contre le rétablissement de l'esclavage et qui a été tuée, assassinée après la naissance de son enfant. Donc, reconnaître Solitude, c'est aussi reconnaître cette partie de notre histoire. Je pense qu'il faut plutôt ajouter que retrancher et expliquer. Expliquez beaucoup.
Anne Hidalgo, il y a les questions de fond et il y a les questions de stratégie qui comptent aussi. On voudrait comprendre pourquoi vous ne dites pas plus clairement que vous avez envie d'être candidate à la présidentielle et qu'est-ce qui sera le déclic chez vous quand vous, vous vous affirmerez. Est-ce que c'est les sondages qui vous guident? Qu'est-ce que vous attendez en fait?
D'abord, je pense qu'il faut un travail, il faut se rassembler et je veux mettre la parole qui est la mienne. Le fait qu'on soit venu beaucoup me chercher aussi de tous les territoires pour me dire il faut porter cette parole du rassemblement. La question des sondages, franchement, vous savez, toute ma vie, en fait, j'ai déjoué les sondages.
Hein. Mais qu'est-ce qui fera la différence entre vous et un candidat écolo?
Quand j'étais jeune étudiante, fille d'ouvrier, on était à peu près 3% d'enfants d'ouvriers à l'université. Si j'avais écouté tous les déterminismes que l'on voit à travers les statistiques, je ne serais pas en train de vous parler depuis cette place-là, dans ce studio, et on ne serait pas en train de parler,
donc
y compris
d'élections. Selon vous, Anne Hidalgo,
d'élection présidentielle. Je pense qu'un sondage, ça décrit une offre politique à un moment donné. Moi, ce que je propose, c'est de créer cette nouvelle offre politique. Il faut que l'on arrive à créer un nouvel horizon, un nouveau projet, totalement inscrit dans la transition écologique, totalement inscrit dans l'idée que une société inégalitaire comme celle que nous connaissons aujourd'hui est une société qui génère de la violence et nous devons nous rassembler, nous réunir, retrouver le goût et la fierté d'être ensemble des Français qui débattent,
avec un calendrier,
qui s'engueulent, mais qui projettent aussi un avenir commun. Et aussi la démocratie. Parce que là-dessus, il faut qu'on réapprenne à parler ensemble, qu'on réapprenne à s'écouter, je le disais tout à l'heure, à se considérer, à aussi être capable de dépasser nos différences. Moi, vous savez, dans le débat politique, je n'attaque jamais mes adversaires. Et surtout pas à Dominem. Ce qui m'intéresse, c'est le débat d'idées. C'est quel choix pour la France? En 2017, on n'a pas eu ce débat. En 2017, il y a eu des bouleversements. Un effondrement de l'offre à gauche, un effondrement de l'offre à droite, et puis un génie, un talent extraordinaire de Emmanuel Macron qui a gagné cette élection présidentielle. Mais on n'a pas eu. On n'a pas eu cette discussion sur quelle France nous voulons et comment
Alors
nous voulons
là,
porter nos projets.
C'est une discussion que vous avez avec vos partenaires, Damien Fleurot.
Anne Hidalgo, juste en un mot, votre adversaire justement, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, il y a un débat autour du Front Républicain. Comment est-ce que vous vous positionnez là-dessus?
D'abord, moi je n'ai pas d'adversaire en particulier. Je pense qu'on est dans un moment où il faut construire
Marine
un projet.
Marine Le Pen n'est pas un adversaire pour
Alors,
vous
Alors, Marine Le Pen est bien sûr, non mais vous parliez d'Emmanuel Macron. Marine Le Pen est bien sûr, pour moi, l'extrême droite. Et ce serait le chaos pour le pays. Alors bien sûr, elle arrive en essayant d'expliquer qu'elle va soulager la situation des plus fragiles. Mais enfin, est-ce que vraiment on peut croire que Marine Le Pen va trouver des solutions pour le pays?
Il y a des Français qui le croient, il y a beaucoup de Français qui le croient.
Et il faut engager le dialogue avec eux. Et il faut engager le dialogue aussi pour qu'ils aient à nouveau confiance dans le fait que la démocratie, le débat démocratique peut nous permettre de trouver un chemin qui ne soit pas le chemin du chaos qu'il y a avec Marine Le Pen et qu'il y aura. Vous imaginez la société française déjà très fracturée aujourd'hui, ce que ça donnerait avec l'extrême droite au pouvoir. Alors oui, le Front Républicain, je l'assume, comme je l'ai toujours assumé.
Quelques secondes, vous n'échappez pas à la question rituelle. Vous irez jusqu'au bout, comme on dit, c'est-à-dire jusqu'à la fin de cette candidature, où à un moment donné, vous allez dire, je n'y arrive pas et je donne la place à d'autres.
D'abord, je vais tout faire, mais vraiment tout faire, pour qu'il y ait une offre politique écologique, sociale, démocratique, républicaine, et je vais m'y engager, mais alors vraiment à fond, avec beaucoup de détermination, avec beaucoup d'envie, beaucoup d'optimisme aussi, parce que je suis sûre que beaucoup de Français entendent ce message-là et ont sans doute envie aussi d'autres choses pour eux et pour leurs enfants et surtout pour notre pays.
Merci, c'était votre grand rendez-vous, donc on se retrouve dimanche prochain.